Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à Point de vue. Boris Chassagne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire, c'est encore le temps des vacances et nous prenons aujourd'hui la route en direction de la Côte-Nord et du Manitoba. Mais une première halte en Alberta où on nous apprend que le rideau tombe sur les capsules historiques du balado La Place.
La Place, c'est un projet absolument extraordinaire aussi. Mais ça va être un voyage nostalgique cette fois-ci parce que c'est le dernier.
Dans la communauté rurale de Kedgwick au Nouveau-Brunswick, le prêtre Ernest Dumaresque tire sa révérence après une carrière de 55 ans. Il en a 82.
Comme partout ailleurs, on a perdu les jeunes et puis les parents des jeunes. Et c'est une ombre au tableau, c'est une souffrance que je porte à l'heure actuelle.
Au Québec, une campagne de promotion lancée par Tourisme Côte-Nord colle à la peau des touristes et locaux de la région. Leurs autocollants font fureur.
J'aime bien appeler ça une petite œuvre d'art, en fait. C'est ça qui est beau dans cette collection d'autocollants-là.
Et francophones et francophiles se réunissent autour d'un tournoi amical de pétanque à Saint-Boniface, tisser des liens tout en prenant l'air.
Mais l'avantage de la pétanque, ben c'est vraiment, si je dois résumer pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire que c'est du curling sur terre ou le bocce ball français.
Bienvenue à Point de vue.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la baleine en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
Le balado historique La Place, animé par Ronald Tremblay, va tirer sa révérence après sa cinquième saison. Après avoir traversé, sondé et fouillé l'histoire de la ville d'Edmonton et de la province qui l'abrite, il était temps, nous dit M. Tremblay, de mettre un point final à cette aventure historique lancée en 2017 par la Société historique francophone de l'Alberta. Ronald Tremblay, ancien animateur de la radio d'État canadienne et membre de l'Ordre du Canada, affirme avoir fait le tour du jardin. Il se dit maintenant prêt à passer à autre chose. Sa participation au balado La Place a plutôt confirmé son intérêt et sa curiosité pour l'histoire avec un grand H. Ce balado dont la mission est de raconter celle des différents quartiers d'Edmonton et de la province tout entière, et par ce prisme, mettre au jour les récits des communautés qui la colorent. De Plamondon, en Alberta, notre journaliste Vincent Lavoie reçoit Ronald Tremblay.
Ronald Tremblay, vous êtes idéateur au sein du balado historique La Place de la Société historique francophone de l'Alberta. La quatrième saison du balado est tout juste sortie, la cinquième est en route. Il y a eu certaines spéculations concernant une continuation peut-être jusqu'en 2026 pour célébrer le centenaire de la CFA provinciale. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là?
Il y a beaucoup de spéculations en ce moment sur tout ce qui dépasse la saison présente. Vous avez raison, l'année passée, justement, on était chez vous. On est allé faire la place en 2021, c'était, à part Plamondon, c'était La Clabiche, Saint-Paul, Bonneville, Cold Lake et tout ça. Et cette année, bien en 2022, on est justement en train de préparer ce qui va être la dernière saison de La Place. C'est pas de gaieté de cœur, je dis ça, mais à un moment donné, c'est qu'on a fait le tour du jardin, comme on dit. Puis aussi, il faut que parce que ça demande quand même de l'investissement de la part de la société historique, et je pense que c'est important aussi que la société historique viennent clore ce dossier-là, où est-ce qu'on a parcouru, mon Dieu, l'ensemble de la province. On est allé dans le bout de Calgary, on s'est rendu du nord au sud. Cette année, c'est à Rivière-la-Paix, qui est une région bien importante pour moi depuis que je suis arrivé en Alberta dans les années 80. Il y a beaucoup de choses aussi qui se sont passées à Rivière-la-Paix. Tout comme Radio Boréal, il y a une radio là-bas qui est la première radio communautaire au fait de l'Alberta, à part Radio-Canada, mais ça, c'est autre chose. Ça vient justement de Rivière-la-Paix, de Falaire. Donc, il faut, ça nous porte à nous intéresser beaucoup là-dedans. Il y a beaucoup d'histoires aussi culturelles là-dedans, dans le bout de Saint-Isidore, entre autres, à Falaire. Donc, il faut vraiment faire un beau clin d'œil à eux cette année. On part d'ailleurs dans un mois, je crois qu'on qu'on va être sur le chemin du retour. On part dans un petit peu plus de 3 semaines, je pense, et on va aller pendant 1 semaine, justement, enregistrer, comme on a fait chez vous, enregistrer les épisodes qui sont là-bas. La Place, c'est un projet absolument extraordinaire aussi. Je dirais même que de tous les projets que j'ai faits, c'en est un autre de mes préférés. Ça, et ça, c'est un peu inattendu parce que moi, je suis un petit peu une bête artistique, une bête culturelle. Et ça, ça a commencé même avant que je vienne ici en Alberta. Puis La Place, tout à coup, j'ai pogné la piqûre de l'histoire avec La Place. Évidemment que mon rôle dans l'équipe de l'émission, parce qu'on est 4 dans l'équipe, moi, mon rôle, c'est aussi de récupérer ces choses-là. Les choses comme, par exemple, on va parler de CKRP quand je vais être là-bas, et tout comme j'ai fait lorsqu'on était à Plamondon, c'est un peu mon rôle de récupérer ces choses-là, parce que je suis aussi quelqu'un qui vient du monde de la radio. Donc, j'ai bien hâte de faire ça. Et ouais, c'est ça, j'ai bien hâte, mais ça va être un voyage nostalgique cette fois-ci, parce que c'est le dernier. Et en ce qui concerne, pour faire du pouce sur ce que vous aviez dit, sur peut-être le 100e de l'ACFA et tout ça, j'imagine qu'il va y avoir une ruée aux barricades pour marquer cet événement-là. Et même si ce n'est pas La Place, je suis pas mal sûr que la Société historique va avoir un rôle important à jouer là-dedans aussi. Ouais.
Oui, vous parlez justement de la 5e saison du balado, c'est dans le nord-ouest de l'Alberta cette fois-ci. Sans tout nous dire, là, dans quelle localité allez-vous vous rendre pour cette ultime saison? On s'attend à Falaire, Saint-Isidore aussi. Quelles autres localités allez-vous visiter?
Oh wow, il y en a plusieurs. On a parlé présentement, on est encore dans le processus de décider des sujets un peu, puis bientôt on va commencer la recherche. Les endroits qui ont été mentionnés, par exemple, il y a Donnelly, il y a Girouville, mon Dieu, il y en a plusieurs finalement, parce que quand on dit Falaire, on parle aussi de tous les endroits qui sont près de Falaire. Saint-Isidore, évidemment, on parle de Peace River. Peace River qui est quand même un endroit important là-dedans, parce que ça se rapporte pas, La Place ne se rapporte pas seulement à la francophonie. Ça se, on concentre sur la francophonie lorsque c'est possible, mais on parle de l'histoire globale de l'endroit. Et on a beaucoup parlé de l'histoire des Autochtones, des Premières Nations, partout où on est passé jusqu'à date. Et dans cette région-là, effectivement, il y a beaucoup d'histoires qui vont sortir, on imagine, de cette région-là. Il y a Grande Prairie aussi. Je ne sais pas comment ça se fait, je suis passé à côté de Grande Prairie, mais je sais qu'on va faire un épisode sur Grande Prairie. Et qu'est-ce qui est riche dans Grande Prairie, c'est que jusqu'à il y a, mettons, 50 ans, on parlait d'Edmonton comme étant la porte vers le nord de l'Alberta. Mais maintenant, ça a changé beaucoup parce que Grande Prairie a pris beaucoup d'importance. Et donc, c'est l'endroit maintenant qu'on désigne comme étant la porte sur le nord de l'Alberta. Donc, beaucoup de belles choses à explorer dans la région, grande région de Rivière-la-Paix et Grande Prairie.
Pour terminer, qu'est-ce que vous avez le plus apprécié de ce projet-là? Est-ce que vous avez un épisode préféré en particulier?
Non, c'est rien en particulier, c'est-à-dire c'est venu au fur et à mesure. Comme à Edmonton, tout à coup, c'est la découverte de choses vraiment inédites. Comme il y a un quartier dont je me rappelle pas le nom là, à Brûle-Pourpoint, mais il y a un quartier dans le centre-ville d'Edmonton qu'en faisant de la recherche, puis c'est un quartier complètement anodin à mes yeux. Tout à coup, en faisant de la recherche, on s'est aperçu qu'il y a 40, 50, 60 ans, les choses qui sortaient de là, et pas seulement les choses francophones, les choses importantes dans l'histoire de l'Alberta, parce qu'il faut se souvenir aussi que l'Alberta, c'est une province jeune, hein? C'est une province qui a 120 ans, même pas. Donc là, tout à coup, tu t'aperçois que, my God, en visitant ces quartiers-là, en visitant les cimetières aussi, ça paraît un peu sombre dire ça, mais les cimetières là, c'est rempli de pistes d'histoire absolument incroyables. Donc c'est venu de ça. Puis tranquillement, avec l'aide aussi de Denis Perrault, qui est le directeur de la Société historique, puis qui a une vision, c'est un historien, et il a une vision tellement actuelle et tellement dynamique de l'histoire que ça m'a rentré là-dedans. C'est vraiment là. Donc je remercie remercie les gens de la place, justement, de m'avoir initié là, de façon certaine à l'histoire.
Ronald Tremblay, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Ici Vincent Lavoie pour IGL à Plamondon.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Le prêtre Ernest Dumaresque a célébré sa dernière messe le 7 août dernier à l'église de la communauté rurale de Kedgewick au Nouveau-Brunswick. À 82 ans, il prendra donc enfin un peu de temps pour lui. Sa présence dans cette communauté date de 2007. Il avait pris la relève du prêtre Yvan Thériault en 2007. Le prêtre Dumaresque aura marqué les esprits de plusieurs croyants au sein de la paroisse de Kedgewick par ses cérémonies captivantes et par son dévouement. Monsieur Dumaresque est prêtre depuis 55 ans, imaginez, et dire que sa carrière aura débuté en Colombie, quel parcours! Pourquoi a-t-il choisi de porter la soutane? Les chemins où il s'est arrêté, de Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick, le reportage de Maxime Gauthier.
Le fait d'être prêtre, pour moi, c'est très personnel. C'est pas l'engagement de mon père ou de ma mère qui voulait un prêtre dans leur famille. C'est que, très jeune, j'avais l'idée d'être prêtre. Maintenant, quand je suis entré au séminaire, à ma grande surprise, on a fait, dans les premières années de ma vie sacerdotale, un prêtre qui est moralisateur, qui dirige tout, puis ça va jusqu'à l'aspect du confessionnal où, à un moment donné, tu entrais dans la conscience des gens, tu sais. Mais ça prend 50 ans avant qu'une mentalité s'installe. Avec le Vatican II, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a priorisé la conscience comme étant le lieu sacré par excellence entre l'être humain puis Dieu. Donc, le prêtre, il faut qu'il considère la conscience de celui à qui il parle. Or, avec le temps, j'ai changé d'attitude. Mais mon mission à l'Église, qui était d'abord de type moralisateur, on appelait ça dans le temps un sermon, sont devenues, avec le temps, des monitions où on est centré sur la parole de Dieu qui appelle la personne à changer elle-même et non à l'interpeller. Et on n'appelait plus ça des sermons, mais on appelait ça des homélies.
Pour le prêtre Ernest, tout a commencé à Bogota, en Colombie, alors qu'il a rencontré un homme qu'il qualifie de remarquable. Ce dernier aura été d'une influence marquante pour son avenir.
La première place où je suis allé, c'est en Amérique du Sud, 3 ans en Amérique du Sud. Et là, j'ai rencontré un homme extraordinaire, un père eudiste de l'Amérique du Sud, qui s'appelle Rafael Garcia Herreros, j'ajouterai pas d'autres mots, là. Lui se centrait beaucoup sur la prière, une prière qui allait chercher la pauvreté. J'ai vécu 3 ans avec ce monsieur-là. Il s'occupait de donner des maisons à prix modique à des gens pauvres, avec une mensualité dépendant de ce qu'ils pouvaient payer. Et au bout de tant d'années, la maison pouvait leur appartenir. Alors, on peut dire qu'il fonctionnait avec une idée que Dieu prend soin des pauvres. Alors moi, j'ai été marqué par cet aspect-là. De telle sorte qu'à un moment donné, il y avait, à l'intérieur de la Colombie, il y a eu au moins une 60aine de municipalités qui faisaient partie de l'œuvre de ce gars-là. Donc, les maisons se sont multipliées par milliers. Or, ce monsieur-là, là, ce père-là, il m'a influencé profondément. C'est la personne qui m'a influencé le plus dans ma vie. Ce pourquoi je suis parti, c'est que il est difficile de suivre un géant. Et je dis en blague, là, je me suis pris pour le Christ, je me suis épuisé, et puis je suis parti.
Avant son arrivée à la paroisse de Kedgewick en 2007, M. Dumaresque s'est dirigé vers la côte nord au Québec, où il s'est impliqué dans l'enseignement auprès des jeunes pendant de nombreuses années.
Après ça, je suis allé sur la côte nord. Sur la côte nord, 2 ans à Havre-Saint-Pierre, mais la plupart du temps sur la côte nord, c'est à Baie-Comeau, où j'ai été 16 ans dans l'éducation, encore là, cette fois-ci, centré sur le jeune. Et puis, une parole du directeur général, à ce moment-là, là, qui m'a employé, il m'a dit, c'est une population de 8000 élèves, primaire, secondaire. Moi, j'avais la direction à la fois spirituelle et catéchétique de 8000 élèves. première chose qu'il m'a dit, je ne veux pas que, fais attention, ne sois jamais seul avec un jeune. J'ai pris ça à la lettre. Je n'ai jamais été seul avec un jeune. Puis pour moi, ça a été quelque chose de réconfortant, d'avoir l'appui de quelqu'un qui me soutenait dans ce sens-là. Je suis allé dans l'éducation, j'ai cherché des moyens d'avoir des gens qui étaient à la portée des jeunes. Après ça, 16 ans dans l'éducation, 6 ans dans une paroisse à Bécomo, je suis allé à Saint-Léonard. Saint-Léonard, j'avais les jeunes d'une façon extraordinaire. J'allais même à l'école avec ma guitare. Je jouais de la guitare. Maintenant, l'évolution s'est vite faite, de telle sorte que quand j'ai quitté Saint-Léonard, après 12 ans, je suis venu à Kedgwick. Et là, mais petit à petit, comme partout ailleurs, on a perdu les jeunes. Et puis, les parents des jeunes. Et c'est une ombre au tableau, c'est une souffrance que je porte à l'heure actuelle. Malgré le fait que nos messes sont très bien animées, elles sont excellentes, mais elles ne comprennent pas les jeunes, tu sais. Mais nos messes sont excellentes.
Le prêtre Ernest Dumaresque fait un bilan de ses 15 années passées à la paroisse de Kedgwick et lance un message à cette communauté.
Pour mes 15 ans à Kedgwick, j'ai vécu, comme j'aurais vécu ailleurs, un éloignement de la pratique religieuse. Par contre, j'ai voulu constamment être très près des gens. Et j'ai eu cette prise de conscience intérieure que le lieu sacré par excellence où Dieu rencontre l'être humain, c'est la conscience d'un chacun. Qu'il soit pratiquant ou non pratiquant, cette personne-là a une entrée spéciale avec Dieu de par le fait qu'elle a une conscience personnelle. Les gens de Kedgwick sont des gens en recherche. Et puis, moi, je crois en l'avenir, des gens en avenir spirituel, des gens de Kedgwick. Ils sont très près de la nature. Il faut qu'ils retrouvent une façon d'être près de la nature et en même temps d'être célébrants et d'être en petite communauté familiale, surtout. Des gens capables d'une réflexion sur Dieu, puis d'un approfondissement de la vie de Jésus en eux. Puis je pense qu'ils sont capables de ça. L'avenir nous le dira, mais moi je mets ma confiance là-dedans.
Moi, le père Ernest, je peux vous dire ma relation qui a été avec lui, que j'ai beaucoup aimé, c'est quand on faisait la catéchèse avec les petits-enfants là, qui allaient faire les premières communions. Puis là, à un moment donné, dans tout ce, on avait commencé à animer l'Évangile. Puis, mon Dieu que j'aimais, il venait à l'église, puis il chantait avec les enfants, puis les enfants, il y a beaucoup d'attachement aux enfants, puis les enfants avaient beaucoup d'attachement à lui aussi.
Alors, le père Ernest, pour moi, là, c'était un bonhomme assez spécial, surtout au niveau de l'animation à l'église. C'est qu'on n'aura plus de bonhommes comme lui qui vont faire les gesticules. Il est bras en l'air, puis il veut tout passer son message autant qu'il peut. Ça n'existe trop plus. On l'a eu, on a été bénis. Merci, Ernest. Bonne
retraite. Ce que j'en retiens de lui, c'est sa grande intériorité. C'est un bonhomme tellement intérieur. La présence de Jésus en nous autres, là, c'est ce qui mène sa vie, puis c'est ce que j'admire de lui.
Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI et écoutez nos reportages sur canada-info.ca.
L'organisme Tourisme Côte-Nord, en collaboration avec la boutique de vêtements Kaplan Côte-Nord, ont imprimé et lancé l'an dernier une série d'autocollants à l'effigie des municipalités et villages de la Côte-Nord, ceci dans le but de faire parler de la région, bien sûr, et attirer un plus grand nombre de touristes. Et depuis, on se les arrache d'autant qu'ils font l'objet d'un concours. En 2021, 23 autocollants ont été produits, 16 nouveaux stickers ont été ajoutés à la collection cette année pour un total donc de 39. Dans l'édition 2022, on reconnaît les villages de la Basse-Côte-Nord comme La Romaine, Chivry, Harrington Harbour et Tête-à-la-Baleine. Ils se retrouvent aux côtés de ceux de Ounamène-Chipu et de Blanc-Sablon imprimés l'an dernier, par exemple. Pour parler d'initiative qui a vraiment fait mouche auprès des touristes et des locaux, Pénélope Clermont s'est entretenue avec Josie-Anne Dufour, coordonnatrice aux communications et à la commercialisation de Tourisme Côte-Nord, et Anne-Édith Daou, propriétaire de Caplan Côte-Nord.
C'est ça qui est beau dans cette collection d'autocollants-là, c'est qu'à travers chacun des attraits de chaque municipalité, bien, on a vraiment une grande carte postale finalement de la Côte-Nord. Puis on peut voir aussi à l'intérieur des autocollants un peu les différents paysages qu'on retrouve sur la Côte-Nord, parce qu'on le sait, notre région, elle est excessivement grande. Donc, on voulait vraiment que que les images ou les illustrations ou les attraits qu'on souhaitait mettre de l'avant témoignent de ça.
Du côté de Tourisme Côte-Nord, Josiane, est-ce que vous voyez des retombées de ce projet-là? Est-ce que les gens se les arrachent?
Ben, en fait, oui, on a des retombées. En fait, là, les bureaux d'information touristique qui distribuent ces autocollants-là nous font mention. Souvent, il y en a qui en manquent. Donc, il y a vraiment là, un gros roulement de ces autocollants-là. Puis, tout nouveau cette année, là, qu'on a décidé d'élaborer avec toute l'équipe de Tourisme Côte-Nord, il y a aussi Caplan qui a participé à l'illustration. On a créé un journal de bord, donc un journal de poche que les gens peuvent se procurer aussi dans les bureaux d'information touristique au coût de 3 $. Les gens peuvent collectionner les autocollants, les coller directement dans le journal de bord, peuvent écrire des pensées. Tu sais, c'est souvent le fun, en plus de voyager, parcourir la route 138, de garder des beaux souvenirs de tout ça. Donc, non, mais vraiment, là, les gens sont très heureux de pouvoir... Puis c'est comme un petit jeu aussi, tu sais, collectionner les autocollants, là, parcourir la 138, c'est quand même une route qui est assez longue, mais magnifique en soi. Donc, le fait de pouvoir collectionner des petits souvenirs à ramener à la maison, là, les gens apprécient beaucoup ça.
Bien, on parle souvent que la 138 hein, est un voyage en soi, donc fait partie, dans le fond, du voyage, que c'est presque le personnage principal, en fait, de la Côte-Nord, là, avec la mer, avec la forêt et tout ça. Cette collection-là, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est autant les locaux qui les collectionnent que les touristes, dans le fond, qui viennent nous visiter. Et je remarque, en fait, qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent dans les bureaux d'information touristique pour aller chercher leur autocollant. Et ça, bien, c'est un prétexte aussi pour parler aux gens des différents bureaux d'information touristique, à aller chercher plus d'informations sur les différents attraits touristiques, t'sais, les beautés, en fait, ou les activités à ne pas manquer sur le territoire. Fait que donc, c'est vraiment intéressant. Puis j'ai l'impression aussi que les illustrations rayonnent. Bien, pas j'ai l'impression, je pense que je le sais pour avoir discuté avec plusieurs touristes ou plusieurs visiteurs ou locaux qui vont à l'extérieur aussi de la région, c'est que lorsqu'ils les mettent, mettons, sur leur voiture, bien, ça crée des discussions à l'extérieur de la région. Donc, les gens se rassemblent, les gens regardent, « Ah, t'es allé là, t'es allé à Guaniche, t'es allé à Tête-à-la-Baleine ou t'es allé à Blanc-Sablon. Hey, moi aussi, hey, j'aimerais donc y aller, moi aussi. » Ça fait une excuse, en fait, pour susciter la discussion pour parler de la Côte-Nord. Fait que j'ai l'impression que c'est une belle carte de visite. En même temps, il y a un sentiment d'appartenance, je pense, qui se développe.
Il y a un concours d'associés aux autocollants. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus?
Oui, en effet, on organise un concours chez Tourisme Côte-Nord pour justement initier le mouvement que les gens se rendent dans les bureaux d'information touristique, collectionner les autocollants. Donc, c'est assez simple. Les gens vont collectionner les autocollants dans les différents bureaux d'information touristique, doivent se prendre en photo ou prendre en photo les autocollants dans un paysage nord-côtier, puis ensuite se rendre directement sur notre site web là, sous l'onglet « Concours » et remplir le formulaire, envoyer les photos. Les gens peuvent envoyer jusqu'à 39 photos pour les 39 autocollants. Une photo égale une participation de plus pour gagner le concours. Et en fait, c'est gagner un séjour là, sur la Côte-Nord d'une valeur de 4 900. Donc, c'est vraiment une belle opportunité là, de pourquoi pas revenir sur la Côte-Nord et en plus, ça soit tout payé. Donc, c'est vraiment là, un super concours. Et puis nous, c'est ça, avec ces photos-là, ça nous permet de partager un peu plus sur les réseaux sociaux les bonnes nouvelles des gens qui ont fait l'exploit de se rendre jusqu'à la fin de la route 138 et qui ont parcouru les différentes villes et villages de la Côte-Nord. Donc, c'est un concours qui vaut la peine, je pense. Le prix est assez intéressant. Puis, il y a beaucoup de personnes déjà qui y participent. Mais on encourage encore les gens à y participer et peut-être gagner un voyage gratuit ici chez nous sur la Côte Nord.
Bien, merci beaucoup, mesdames, pour le temps accordé.
Ça fait plaisir.
Merci beaucoup.
L'Alliance française du Manitoba, en collaboration avec l'Union nationale Métis et Sport en français, organise le 25 août prochain un grand tournoi de pétanque à Saint-Boniface, une manière de vivre sa francophonie tout en profitant bien sûr du plein air. Le tournoi est ouvert à toute personne qui souhaite s'y inscrire, francophone et francophile inclus. Aurélie Nana-Forsan est en compagnie d'Emmanuel Pérez, le nouveau directeur de l'Alliance française du Manitoba, qui nous parle de ce championnat amical de pétanque de Saint-Boniface.
L'idée, c'est vraiment de se rencontrer, de permettre à tous les âges potentiellement de jouer ensemble avec une petite compétition, mais ça reste une compétition très amicale. Et l'avantage de la pétanque, bah, c'est vraiment, si je dois résumer pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire que c'est du curling sur terre ou le bocce ball français.
Est-ce que vous êtes vous-même un joueur de pétanque?
Alors, je suis un amateur de pétanque, un grand amateur, je ne sais pas si je suis un joueur. J'ai un petit terrain de pétanque même chez moi, pour vous dire la vérité.
Oh, mais qu'est-ce qui vous attire le plus alors dans ce sport?
Ben, c'est la convivialité. L'idée que c'est assez facile de jeter une boule et de se rapprocher du cochonnet, c'est la petite boule que l'on doit viser. N'importe qui peut jouer. J'ai ma belle-mère qui est venue des Philippines, qui n'avait jamais joué. Et en 5 minutes, elle comprend la règle du jeu et puis elle peut jouer. Donc, c'est très accessible, très convivial. C'est la convivialité de ce sport qui est absolument extraordinaire parce que même là, francophone, francophile, on se comprend assez rapidement, peu importe l'âge. Et puis, en plus, c'est l'occasion d'être à l'extérieur. Alors, du coup, on va avoir également de la musique. Ça va être assez festif. Donc, c'est une très jolie collaboration entre trois organismes. Et puis j'espère bien, oui, que l'Alliance va tisser potentiellement des partenariats avec Sport en français. On est en train de travailler dessus. Je pense que c'est pas mal parce que sur place, on aura déjà la nourriture et comme vous l'avez dit, le matériel. Donc il faut juste que les personnes viennent avec leur sourire.
Ben, c'est fantastique.
Ben, je vous remercie et je souhaite une très bonne journée.
Voilà, c'est tout pour nous. À Point de vue, on remercie nos journalistes Pénélope Clermont, Maxime Gauthier, Aurélie Nana-Forsan et Vincent Lavoie, coordonnateur national Stéphane Bénard, ici Boris Chassagne, à l'animation et à la réalisation. Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire avec la collaboration de votre radio locale. Merci de nous avoir tenus compagnie. À la semaine prochaine.
Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.